les fruits et les légumes que tu achètes pour tes enfants, le riz que tu achètes pour tes enfants, tu payes, et c'est une sadaqa pour toi. Tu l'as payé, puis c'est une sadaqa pour toi. Et celui qui n'a pas d'enfant, celui qui n'a pas de femme, ben il va payer que pour sa propre personne. Donc il n'aura pas cette responsabilité. Et donc, en fait, le fait d'avoir une femme et des enfants va engendrer des droits et des devoirs, notamment des devoirs pour l'homme. Et s'il accomplit ces devoirs-là, Allah est attentif à tout ce qu'on fait. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Donc il dit même l'ihtimal al-adha minhun, quand tu supportes et tu patientes avec ta femme malgré son caractère, malgré que les problèmes qu'elle peut te causer, malgré les paroles blessantes, malgré quand je dis ta femme, c'est ton mari aussi, dans les deux sens bien sûr. Quand tu essayes de patienter, tu dis ma'alish, c'est pas grave, tu fais comme si tu n'as pas écouté, tu n'as pas entendu, et tu fais passer, tu es un homme sage, ben ça dit hasanat aussi, d'accord? Parce que c'est ta femme, il faut supporter, les femmes sont comme ça. Et quand tu essayes et tu apportes wassa'iu fi islahihin, quand tu essayes d'améliorer, de progresser avec ta femme, de lui apprendre des choses, de l'amener vers la religion, de l'amener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi, c'est quelque chose de formidable. Ça te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tarbiyatul awlad, ça te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'éduquer son enfant, de lui apprendre le Coran, de lui apprendre les bonnes manières, ne croyez pas que tout ce temps-là que vous allez, entre guillemets, perdre, c'est du temps perdu. Non, subhanallah, tu passes une minute avec ton enfant pour lui apprendre une sourate, ben c'est les anges sont en train d'inscrire et d'écrire pour toi. Tu as passé tel. Parfois ça nous arrive. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants, je passe. Non, tu es dans le halal, tu es dans le bon chemin, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, Allah comptabilise tout ce qu'on fait pour nos enfants et pour nos femmes. Et ça en soi, c'est un bien. Le mariage qui va engendrer des devoirs comme ça, c'est un bienfait. Bishr al-Hafi, c'était un grand savant qui n'avait pas d'enfant, qui n'était pas marié. Il était un peu, il s'est retiré un peu, il est trop spirituel. Il est connu, Bishr, c'est connu. Il dit Fadl alayya Ahmed bi thalath. Il parle de Ahmed ibn Hanbal. Il dit Ahmed ibn Hanbal est meilleur que moi. Alors que lui, Bishr, il est connu. Bishr al-Hafi, s'il lève les mains, on dit toujours que jamais Allah lui a refusé une invocation, ce Bishr. Connu, hein. C'est quelqu'un de très très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il prie énormément, il jeûne énormément. C'est une sommité de spiritualité, de proximité à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais regardez ce qu'il dit. Malgré que tout le monde sait, c'est Bishr. Il dit فضل علي أحمد بثلاثة. Ahmed ibn Hanbal, qui était son voisin, il dit il est meilleur que moi, alors que tout le monde sait que lui c'est une, il dit non, Ahmed il est meilleur que moi. Et il dit il a trois choses qui sont meilleures que moi. Ça c'est la modestie. إحداهما أنه يطلب الحلال لنفسه ولغيره. Ahmed ibn Hanbal, il cherche le halal. Il cherche à nourrir sa personne et sa famille. Moi, je ne cherche à nourrir que ma famille. Donc, je n'ai pas cet avantage que Ahmed ibn Hanbal a par rapport à moi, le fait d'avoir une famille. Moi, je n'ai pas de famille. Regardez comment. Donc, les cinq bienfaits du mariage, comme on vient de le dire, les enfants, le fait de se préserver, de préserver sa chasteté. Il se préservait son honneur, d'accord? Le fait d'avoir cette tranquillité d'esprit, d'avoir cette complémentarité au sein du foyer, d'avoir une personne sur qui on peut compter, le fait qu'on se soulage mutuellement, que chacun joue un rôle dans le foyer, on est complémentaire pour les tâches du foyer. Et le cinquième bienfait du mariage, c'est cette responsabilité. Et chaque responsabilité, chaque effort va nous donner une récompense de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que rien n'est perdu. Si tu fais le bien, tu auras le bien. Il dit, il y a un fait au nikah. Là, on a parlé des bienfaits du nikah, des bienfaits du mariage. Mais il y a des défauts, il y a des problèmes que le mariage peut engendrer. La première chose, il dit que c'est al-ajz an talab al-halal. Donc, c'est-à-dire que l'homme, quand il est tout seul, il peut se suffire de peu de choses, parce qu'il est tout seul. Il est plus à même à respecter le halal, à respecter ce qu'il y a, ça c'est haram, je ne m'approche pas parce que c'est haram et j'ai pas de responsabilité, d'accord. Mais parfois, quand on a des enfants, quand on a une femme à nourrir, parfois on peut fermer les yeux sur certains haram, sur certaines choses qui sont douteuses. Ah, je dis, moi je peux pas arrêter ce travail là parce que c'est la nourriture de mes enfants, c'est la nourriture de ma femme, je peux pas. Donc, vous voyez un peu que le mariage, le fait d'être responsable, peut parfois, c'est rare, mais peut parfois nous empêcher ou il nous pousse à fermer les yeux sur certaines pratiques, certaines choses, en disant, c'est comme ça, c'est ma famille, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas arrêter de travailler, alors que on fait un travail qui est douteux, par exemple. Hein. Donc là, il dit, فَيَكُونُ النِّكَاحُ سَبَبًا فِي التَّوَسُّعِ لِلطَّلَبِ لِلطَّلَبِ وَالْإِطْعَامِ مِنَ الْحَرَمِ. Donc le fait d'avoir une responsabilité, le fait d'avoir des enfants, peut être quelque chose qui te pousse vers fermer les yeux. Et si tu vois de l'argent à gagner, hein, parfois, t'as ton cœur qui te dit, non, c'est pas... Et tu dis, non, c'est pas grave, allez, comment je peux nourrir mes enfants, d'accord. Il dit, وَهَذِهِ آفَةٌ عَامَّ قَلَّ مَنْ يَتَخَلَّصُ مِنْهَا. Il dit, c'est un truc généralisé, rare ceux qui sont, qu'Allah leur épargne cela. Sauf si tu as trouvé, alhamdoulilah, tu as ton père qui était grand commerçant, ou tu as laissé de l'argent, ou tu as fait une affaire, alhamdoulilah, et qui est halal à 100%, et que tu gagnes. Donc, mais généralement, il dit, les gens sont tous touchés, plus ou moins, par ce défaut du mariage, par cette responsabilité. D'accord ? Le deuxième défaut, c'est le fait de ne pas être à la hauteur de la patience. Parce que, il dit que ici, les femmes sont difficiles. Il dit, le fait de patienter avec son épouse, et le fait, parce que c'est difficile, quand on est deux, parfois ça peut marcher très bien, et on s'entend très très bien, mais parfois, il y a des comportements, il y a des paroles qui peuvent... Le fait de patienter, et même le mal qu'elles peuvent engendrer, qu'elles peuvent dire ou qu'elles peuvent causer, il faut le supporter parce que c'est ta femme. Donc il faut patienter. Il dit ça, et ça c'est moins grave que le premier. Il suffit à l'homme comme péché de négliger les personnes sous sa responsabilité. Personnes qui sont sous sa responsabilité. Donc, parfois, donc, on n'est pas à la hauteur et on n'est pas patient et on n'est pas. Donc, ça, c'est un autre défaut. D'accord. C'est un défaut, mais à travers ce défaut, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'il faut être sage. Il faut avoir. Les femmes, c'est parfois des hauts et des bas. Et les couples, d'une manière générale, hein, c'est pas. Il n'y a pas un couple qui ne passe pas par des difficultés, par des moments de questionnement, par des... Tous les couples sont pareils, tous. Et donc, l'homme sage, Allah lui a donné la responsabilité de préserver son foyer, de préserver son foyer. Et cette responsabilité, Allah l'a donnée à l'homme et non pas à la femme. Parce que la femme, elle peut changer d'humeur rapidement, elle peut s'énerver trop. Et Allah ne lui a pas donné le divorce. Allah a donné le divorce à l'homme. C'est l'homme qui prononce le divorce. Et l'homme, il doit être un homme. Dans le sens où il doit assumer, il doit patienter, il doit mesurer, il ne doit pas être... Il ne doit pas se précipiter, il ne doit pas s'énerver et parler sous l'effet de la colère. Non, il sait qu'il a un foyer, il sait qu'il a des enfants, il sait chaque acte, ben, il est, sauf quand la vie devient impossible, il le sait, et que c'est impossible de vivre comme ça, et que c'est, chaque jour, c'est un problème en plus. Ben, ah oui, le divorce n'est pas toujours un échec, hein. Ça peut être une solution parfois pour certains couples quand ça marche plus et quand la vie devient impossible. C'est pour ça qu'Allah a autorisé le divorce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le divorce c'est le halal le plus détesté par Allah. Le halal le plus détesté par Allah. C'est halal, mais Allah ne l'aime pas. Le shaitan aime bien quand il y a un divorce, mais ça peut être une solution pour certaines personnes. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Allah nous dit, soit il la garde avec بِمَعْرُوف, avec une bonne entente, أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, comme une séparation avec l'Ihsan. Séparation, mais une bonne séparation. Ce n'est pas une séparation avec les conflits et l'injustice ou la justice. D'accord ? Donc, la deuxième chose, c'est le fait de ne pas supporter, de ne pas être patient concernant les hauts et les bas dans un couple, d'accord. On sait que si une femme, physiologiquement, elle peut passer par des moments difficiles pendant le mois, elle n'est pas pareille quand au début ou à la fin. Donc on sait très bien que, et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que l'homme, Allah lui demande d'être plus patient que la femme. Il lui a donné ce devoir et cette responsabilité de préserver son foyer, lui, et non pas à elle. Parce que la femme, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins intelligente ou moins... Mais physiquement, il y a des moments difficiles pour la femme. Allah a fait que la femme peut enfanter, peut donner la vie, subhanallah. C'est Allah qui donne la vie. Mais c'est à travers la femme, dans le corps de la femme. Imaginez que pendant la grossesse, ça, les hormones et tout ça, tout change chez la femme, tout change. Et quand elle accouche, c'est autre chose. C'est une... Et après l'accouchement, subhanallah, c'est quand même quelque chose. Allah a donné à la femme une responsabilité qui est énorme, c'est d'enfanter. L'homme, c'est simple pour lui, hein. C'est très simple. Mais la femme, son corps subit des transformations. C'est pour ça que Allah nous demande d'être patient, de prendre en considération tout ça. Et c'est pour ça qu'Allah a donné le droit de divorcer à l'homme et non pas à la femme. Et quand l'homme devient comme un enfant et qu'il ne mesure pas les conséquences de ses actes, de ses paroles, et qu'il n'a aucune patience, il n'est pas à la hauteur d'un homme. Et le troisième défaut, c'est que les enfants et la femme, la famille d'une manière générale, soit pour lui un chéril. Chéril, c'est que ça l'empêche d'accomplir son devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Bien sûr, on a dit au début qu'on sait que le mariage et les enfants vont engendrer des responsabilités, d'accord. Mais dans tous les cas, ces responsabilités, ça ne doit jamais être quelque chose qui va t'empêcher d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, t'empêcher de respecter tes prières, de respecter les choses importantes dans ta religion, d'accord. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat التغابن إنما أموالكم وأولادكم فتنة فتنة. Donc vos enfants, votre argent, vos biens et vos enfants, bien sûr l'épouse aussi, ou le mari, sont fitna. C'est une fitna, une tentation, une épreuve pour vous. Parce qu'on trouve des gens qui vont tout négliger de leur religion, et ils te disent, moi j'ai pas le temps, j'ai une famille à nourrir, mais je viens jamais à la mosquée, j'ai une famille à nourrir, je fais pas mes le jumu'a, j'ai une famille à nourrir, je fais pas ça, j'ai une famille à nourrir. Non, t'as une famille à nourrir, certes, mais t'as des devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne néglige pas tes devoirs envers Allah, ne néglige pas tes devoirs envers toi-même, ne néglige pas tes devoirs envers ta famille, et donc à chacun, trouve toi-même l'équilibre. D'accord ? Parce qu'on trouve des gens, subhanallah, rien pour Allah, tout pour la famille. Là, tu le trouves. Il travaille de 8h à 18h un boulot, et après le soir il va faire, je sais pas, un autre travail. Il te dit, moi j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de nourrir mes enfants, ils ont de les habiller. Et quand est-ce que tu vas à la prière? Quand est-ce que tu vas à la mosquée? Quand est-ce que tu adores Allah? Quand est-ce que tu lis ton Coran? Quand est-ce que tu fais tasbih? Quand est-ce... Ah, là, si j'ai le temps... Là, ça, le mariage, dans ce cas-là, c'est un défaut pour cette personne qui néglige tout le reste et qui la dunya, avec le prétexte d'avoir des enfants, d'avoir une famille, devient son souci principal. Il néglige ses prières, il néglige sa religion, il néglige tout pour la partie matérielle. Donc ça, c'est le troisième défaut. Donc quand on connaît les défauts, c'est quoi? C'est que chacun de nous doit se dire, le mariage, on sait que c'est un bienfait, mais ben, il faut éviter ces défauts-là. Il ne faut pas que je tombe, il ne faut pas que dans mon foyer, dans mon couple, j'ai ces problèmes-là, ces défauts-là que je conviens de citer. Et c'est pour cette raison que les savants, quand on leur dit, quand on leur pose la question, quel est le statut du mariage? C'est quoi le mariage, à votre avis? Parce qu'on a cinq statuts. Pour nous musulmans, chaque acte humain, chaque chose que vous faites dans votre vie, on les classe dans une catégorie. Soit obligatoire, soit recommandé, soit autorisé, soit déconseillé, soit haram. N'est-ce pas? Chaque chose, tout ce que vous faites, c'est soit obligatoire. Tout à l'heure, c'est la prière de l'Isha. La prière de l'Isha, c'est quoi pour nous? C'est obligatoire. Hein. Avant la prière de l'Isha, on peut faire dans la rak'at. C'est quoi ça? C'est obligatoire? Et dans la rak'at, c'est
recommandé.
Recommandé. Sunnah, recommandé. Très bien. Allez, j'ai envie de boire de l'eau. C'est quoi?
C'est neutre.
Sunnah, boire de l'eau?
C'est neutre.
Hein?
C'est.
C'est neutre. C'est moubah. Moubah, c'est autorisé. J'ai envie de boire de l'eau, je bois de l'eau. C'est autorisé. C'est ni haram, ni halal, ni sunnah, ni obligatoire. C'est autorisé. Très bien. Et si tu le fais avec bismillah et tout, tu auras un peu de hasanat. J'ai envie de faire le sport. C'est quoi?
Autorisé.
Autorisé. Parce que, très bien. Mais si vous le faites avec une bonne intention, vous aurez des hasanat aussi. Très bien. Donc, manger de l'ail et venir à la mosquée. C'est
déconseillé.
Ça, c'est déconseillé. Comme c'est pas bien de manger avant de venir à la mosquée, ben, on mange pas de l'ail. Parce qu'on peut. Et ça peut être aussi pour fumer, par exemple. Quelqu'un qui fume, ben, il doit s'arrêter avant de venir à la mosquée pour ne pas déranger. Parce que ça peut être déconseillé. Et fumer aussi. Hein, donc, c'est pas juste pour la mosquée. Donc, ça, c'est l'autre. Et haram. Quelque chose qui est haram, boire de l'alcool, c'est haram, d'accord? C'est haram, c'est clair. Donc, voilà le mariage. Le mariage, à votre avis, il est où? Est-ce qu'il est autorisé?
Oui.
Il est certainement autorisé, c'est sûr. Ouais. Mais est-ce que c'est juste autorisé?
Non, il est dans les cinq.
Hein?
Il est dans les cinq, non?
Le mariage, selon la personne, pour certaines personnes, c'est là, pour certaines personnes, c'est là. Pour certaines personnes, c'est là, et pour certaines personnes, là, les cinq. Celui qui ne supporte plus vivre seul et qui risque de faire le haram, il sait que s'il reste comme ça, il va tomber dans le haram. Pour lui, le mariage est
obligatoire.
Tu dois te marier, parce que sinon c'est le haram, donc tu dois te marier. D'accord ? Pour celui qui, alhamdoulilah, il est bien, il n'y a pas de problème. Et le mariage, d'une manière générale, c'est deuxième. Le mariage, d'une manière générale, il est recommandé. Il est halal, c'est vrai. Mais il est recommandé. Parce que, pourquoi recommandé ? Parce que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Le prophète s'est marié, les prophètes avant lui se sont mariés. Et il nous a incités à Ma'ashar al-Shabab, celui qui. Oh les jeunes, celui qui a les moyens, qui se marie. Donc, d'une manière générale, le mariage est recommandé. D'accord ? Maintenant, celui qui est marié, ça ne peut pas exister en France, mais et qui veut se marier une deuxième fois, c'est halal. On va dire, mais c'est recommandé, mais c'est halal. D'accord ? Très bien. Ou quelqu'un, par exemple, qui atteint un certain âge, d'accord ? Et que sa femme est décédée, d'accord ? Il peut vivre seul, il n'y a pas de problème, il a ses enfants, mais on lui dit, c'est autorisé pour toi d'avoir une femme, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne. C'est peut-être même recommandé. Très bien. Quelqu'un qui sait qu'il est insupportable, qui a un caractère, et que la femme ne supportera jamais son caractère, et malgré tout, il essaye de se marier. On lui dit, c'est pour toi le mariage. Donc c'est makruh pour toi, parce que tu es en train de te marier et de mettre en difficulté une personne, parce qu'on sait très bien qu'au bout de 3 jours ou 4 jours, sa femme elle va fuir le foyer, donc c'est makruh pour toi. Sauf si tu changes de comportement et que tu te remettes en question. Ça aussi, c'est une voie. Mais en attendant, pour toi, c'est le mariage est makruh. Et le mariage peut être haram pour certaines personnes qui sont injustes complètement, ils savent qu'ils sont injustes. Salat d'or, par exemple, si je vous dis salat d'or, c'est obligatoire, très bien. D'une manière générale, salat d'or est obligatoire. Ça, c'est le statut. On dit salat d'or, c'est obligatoire. Allez, pour les femmes, est-ce que salat d'or est obligatoire ?
Ça dépend.
Obligatoire pour les hommes, pour les femmes. Très bien. La femme qui est en période de règle,
non.
C'est
haram.
Haram. Regardez, on passe de obligatoire à haram. Imaginons qu'une femme qui a sa période, elle dit, moi je veux faire quoi ? Est-ce qu'elle a le droit ? Et si elle le fait ? Elle a fait un haram. Donc regardez, la prière de Dhuhr, elle va changer de statut. Elle passe de obligatoire, elle passe à haram pour certaines situations. Si vous dites salat Dhuhr pour un enfant qui a 12 ans, qui n'est pas encore pubère, vous allez me dire
recommandé,
tu vois. Pour lui, c'est pas obligatoire, c'est recommandé. Mais s'il est pubère, ça devient obligatoire. Vous voyez un peu que l'acte lui-même, selon la personne, ça change. Oui. Oui, exactement, tout à fait.
Cher, vous avez le Coran aussi, avec le dos, sinon c'est pas obligé de lire.
Ah, c'est une sunna d'avoir, de lire le Coran, d'avoir ses ablutions avant de lire le Coran.
C'est obligatoire.
Non, c'est une recommandation. C'est une recommandation, oui, tout à fait.
On peut lire le Coran sans
avoir... On peut lire le Coran sans avoir ses ablutions. Mais c'est une recommandation. La meilleure méthode... attendez. Quand tu parles des ses ablutions, tu parles des petites ou des grandes ablutions ?
Les petites.
Les petites. Les grandes, c'est obligatoire. Les grandes, c'est obligatoire. Si tu es en jeûne abba, tu ne peux pas prendre le Coran ni le Coran. Ça, c'est obligatoire d'avoir des grandes ablutions. Jeûne abba, c'est tu es pollué. Tu as eu un rapport avec ton épouse et tu n'as pas encore pris ta douche. Tu ne peux pas dire en attendant, je vais prendre mon sahab et je vais lire le Coran. Non.
C'est le mot
Genaba
que je connais.
Genaba, oui. Donc, Genaba, c'est pour lui. Quelqu'un qui n'a pas encore ses grandes ablutions. Il n'a pas, il ne s'est pas purifié. C'est Genaba.
Supposons qu'on est en train de lire au Coran et on a une sortie de gaz. Est-ce qu'on peut continuer ou. C'est dans ce point-là que je.
Moi, maintenant, avoir ses ablutions, ses petites ablutions pour lire le Coran, certains savants le considèrent comme très recommandé, voire wajib, et d'autres, c'est en la majorité, disent que c'est une recommandation, c'est une sunna. C'est-à-dire pour lire le Coran, c'est bien d'être bien habillé, de se diriger vers la Qibla, de s'asseoir, de prendre le mishaf, d'avoir ses ablutions, tout ça c'est des sunnah, d'accord? Tu peux lire le Coran sans avoir tes ablutions, même avec le mishaf, d'accord? Même avec le mishaf. Les petites ablutions, pas des grandes. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات الله ندي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوب صدرك مم en dormant même, et le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de dire là, imaginons que quelqu'un qui est en janaba et qui se lève le matin, il se lève le matin pour aller prendre sa douche. Quand on se lève, qu'est-ce qu'on dit? Bismillah. Est-ce que cette personne qui est en janaba, on lui dit, tu ne dis pas alhamdulillah? Si, il lui dit, c'est une doua qu'il faut dire, d'accord? Bismillah, ne serait-ce que bismillah, ne serait-ce que, donc, exactement. Dhikr, il n'y a aucun problème, parce que les savants, ils disent que c'est la seule adoration que le musulman peut faire dans n'importe quelle situation, sauf dans les toilettes. Tu ne peux pas faire dhikr, dhikr Allah, que tu comptes, en moment de... Non, ça, c'est pas possible. Mais en dehors de ça, il n'y a aucun problème.
J'ai une petite ablution, là, on peut toucher le Coran.
Les petites, oui, les petites, on peut. Parce qu'il y en a qui confondent. Quand Allah dit dans le Coran, « La yamassuhu illa al-mutahharun », il parle de qui? Malaïka. Il parle du livre qui est en haut, le livre Lawh al-Mahfouz, un autre livre. Ce livre-là, il faut, quand on prend un verset, il faut le lire du début jusqu'à la fin pour comprendre. Tu ne peux pas prendre La yamassuhu illa al-mutahharun et tu dis, c'est le Coran La yamassuhu illa al-mutahharun. Non. Là, Allah parle du livre qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que les anges qui ont accès à ce livre-là, qui peuvent le toucher. Mais il parle des anges, il ne parle pas des humains. Mais certains savants disent que il est recommandé, bien sûr. C'est recommandé, c'est pour tous les savants. Que le Coran, on le lit dans les meilleures conditions. Et les meilleures conditions, c'est d'avoir ses ablutions.
Et la femme, quand elle est masculine, elle peut le toucher.
La femme, c'est pas comme l'homme. Oui. Non, après, le mushaf, imaginons qu'elle a un mushaf avec le tafsir ou un mushaf avec la traduction. Ça, c'est pas un mushaf. Quand tu as un mushaf qui est avec la traduction dedans, c'est pas le Coran. D'accord. T'es joué dedans. Si le mushaf, la parole d'Allah entière, ça, c'est un mushaf. Ça, il a des règles particulières. Mais quand tu as un mushaf dedans, il y a la traduction, on ne peut pas parler de mushaf. C'est pour ça que les savants, pour la femme qui a ses règles, quelle est la différence entre un homme, genou, et une femme qui a ses règles? Quelle est la différence entre les deux?
Ça veut dire quoi, un homme genou?
Un homme genou, c'est tout à l'heure la même chose. Pour lui, quelqu'un qui n'a pas ses grandes ablutions.
Genou,
je n'ai pas la genou, c'est ça.
C'est que l'homme avec le genou, il peut de suite se purifier, que la femme...
Il y a une sacrée différence entre les deux. L'homme, il est genou, mais il peut tout de suite aller prendre sa douche et ça disparaît, la janab a disparu. Alors que la femme, quand elle est en période de règles, elle doit attendre les 7 jours ou les 8 jours, c'est obligatoire, elle ne peut pas faire autrement. Elle ne peut pas dire je vais prendre ma douche et je vais... Non. Et donc c'est pour ça que les savants font la différence entre l'homme et la femme. L'homme, c'est haram qu'il touche le mushaf, alors qu'il est genou. C'est haram. On est dans la cinquième. La femme, les savants, ils disent, si elle a besoin, par exemple, elle va dans un cours, elle lit le Coran chaque jour avec, pour apprendre. D'accord? Et elle ne peut pas rater à chaque fois quand elle a sa période, 7 ou 8 jours ou 10 jours, elle arrête complètement. Non, elle n'arrête pas. Elle continue à lire. Parce qu'elle, c'est du...
Avec
voilà, en respectant, c'est-à-dire si elle peut ne pas prendre le mushaf directement dans sa main, si le mushaf est là, et que avec des gants ou avec un portable, si elle lit sur un portable, le portable n'a pas la même sacralité que le mushaf sharif. N'a pas la même sacralité. Parce que le mushaf a une sacralité. Les savants, ils parlent du mushaf, la yamassu et le mutaharon ici. Bien sûr, on a dit que c'est le bayt al-mahfouz, mais si on a le mushaf complet. Mais ça, c'est des questions un peu de divergence entre les savants, mais voilà, d'une manière générale, des réponses. Donc, al-nikah, al-zawaj, on revient. L'Aden, pour l'Aden.
On continue les 10 minutes de plus, non? On fait l'Aden et on fait la prière directe. Hein?
D'accord, très bien. Okay. Donc, donc, on ne peut pas, il dit ici, Al-Hukm à la charse. Donc là, il dit, comme on vient de le dire, on peut pas donner un jugement pour une personne. Il dit, toi, tu dois te marier ou tu dois... on ne peut pas généraliser. On ne peut pas dire que tout le monde doit se marier ou tout le monde... non, c'est au cas par cas. Cette personne-là, dans sa situation, le mariage, c'est quelque chose de recommandé, mais cette personne, dans sa situation, il vaut mieux qu'elle attende un tout petit peu. Cette personne... l'idéal pour elle, c'est de se marier demain, d'accord? Donc c'est... bien sûr, le nikah c'est une bonne chose, mais il faut mesurer les bienfaits qu'on a cités là et les défauts. Si quelqu'un sait qu'il est insupportable, qu'il a un comportement, un mauvais comportement avec tout le monde, ben, il vaut mieux qu'il attende. Il se remet d'abord en question et qu'il améliore son langage, qu'il améliore son comportement avant de se lancer dans un mariage. Il dit maintenant, il parle d'un autre chapitre, l'aqd, l'aqd al-zawaj. Comment se passe l'acte du mariage? L'acte du mariage a des conditions, comme on sait. Quatre conditions. D'accord? Quatre conditions. La première condition, c'est al-wali. Il wali. La permission, l'autorisation du représentant légal. Hein? Moi, je préfère traduire représentant légal et non pas tuteur. D'accord? Parce qu'un individu te dise le tuteur de la femme. La femme musulmane n'a pas besoin de tuteur. D'accord? Elle a besoin d'un représentant légal. C'est son père qui représente. Il la représente, c'est-à-dire il ne lui impose pas. Ce n'est pas un tuteur comme... même la traduction, il faut savoir traduire. Parce que si tu dis, si les gens, on va leur dire, c'est les non-musulmans, ou on va dire la femme en islam a besoin d'un tuteur pour qu'elle se marie, c'est pas la bonne traduction non plus. Le wali, c'est pas un tuteur. Parce que c'est un représentant légal. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que à chaque fois, ils disent, les musulmans ne respectent pas la femme, les musulmans. Même pour le mariage, elle a besoin d'un tuteur. C'est un wali. Le mariage, c'est la femme qui l'accepte. Il ne faut pas imposer à une femme un mari. Il faut qu'elle l'accepte. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une jeune fille lui a envoyé. Elle est venue à la mosquée pour lui poser la question. Ya Rasulallah, mon père m'a marié avec un tel. Et je n'étais pas consulté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit à la femme, à une jeune fille, elle avait 17 ans. Il lui dit, le mariage te revient. Si tu veux, j'annule le mariage de ton père maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, non, ya Rasulallah. Moi, je veux bien me marier avec cet homme que mon père a choisi pour moi et qui a décidé. Mais j'ai voulu que les femmes sachent que les parents ne peuvent pas imposer. Alors, regardez, c'est une jeune fille qui a, alhamdoulilah, une grande sagesse. Pour elle, elle accepte le mariage. Mais elle n'a pas accepté la manière avec laquelle elle a été mariée. Elle dit non, c'était mon père, j'ai énormément de respect, mais tu ne veux pas m'imposer quelqu'un que je n'ai jamais vu dans ma vie. Que tu... Il faut qu'il y ait une...
À l'époque, ils faisaient ça.
Ça ne fait pas longtemps en Algérie, ils faisaient ça au Maroc. Mes parents sont mariés comme ça. Il la voit le jour du mal, la nuit, direct. Et parfois ça marche. Et peut-être ça marche mieux qu'aujourd'hui, subhanallah. Mais chaque époque.
Maintenant, parce que 80% des enfants ne voient que leur père se marier parce qu'ils prennent l'étage. Dans la maison d'un milliard ou deux milliards, peut-être se marier, elle va après le village de sa femme, sa femme.
Il n'y a rien, Barakallah, oui. Il y a pire encore. Tu sais, moi j'ai ces questions de mariage, ça m'a fait beaucoup d'histoires. Une fois, et ça arrive, hein, tu as des parents qui éduquent leurs enfants et qui payent qui a payé pour sa fille, elle a fait des études supérieures. Mais c'est une femme, mashallah. Très très bien, une sœur, et son père l'a empêché de se marier, c'est parce que, et après, quand il est venu, il m'a dit, moi j'ai payé pendant 5 ans ses frais d'études, et maintenant elle va se marier, elle va donner tout ça à son mari, moi j'ai rien. Subhanallah, si c'est comme ça que certains pensent, réfléchissent. Et voilà, je vais la garder 5 ans ou 10 ans pour qu'elle travaille un peu pour moi. C'est subhanallah. Mais c'est vrai que les enfants ne doivent pas oublier leurs parents, ça aussi, hein. C'est leurs parents. Si les parents sont dans le besoin, bien sûr, une fille ou un garçon, je dois donner de mon salaire. Allah m'a donné, alhamdoulilah, j'ai un salaire. Je ne dois pas oublier mes parents, je dois leur donner un peu. Hein, un peu partager. Je donne par exemple 5% ou 10% à mon père ou à ma mère, ça c'est une bonne chose. Maintenant que le père dit. Non, je ne marie pas ma fille parce que si elle se marie, je l'empêche de se marier. Parce que le père empêchait sa fille. J'étais obligé d'intervenir pour lui dire pourquoi tu. Elle a trouvé un homme qui était très bien, tous les deux de la mosquée. Et le père, il dit non, je ne marie pas ma fille. Subhanallah. Donc l'Ouali, oui, il a des devoirs, mais ce n'est pas une autorité absolue. Le père. Il faut qu'il mesure les conséquences. Donc, il dit فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالسُّلْطَانُ هُوَ الْوَلِي. Imaginons qu'il y a une femme musulmane qui n'a pas de wali, qui n'a pas de représentant légal. Qui est son représentant? Al-Sultan. Al-Sultan, c'est, par exemple, ici, on n'a pas de représentant. C'est l'imam. L'imam qui va les marier, ben, il est une autre personne de proche. Qui veut l'intérêt de cette femme. Donc, première condition, c'est El-Wali. Deuxième condition, c'est Ridan Mara, le fait que la femme accepte. Si elle est Thayyib. Thayyib, c'est quoi Thayyib? El-Bikru ou Thayyib? C'est quoi la différence? Une femme vierge. Premier mariage, une femme, bikr, elle a déjà été mariée. Une femme qui a déjà été mariée, elle doit donner son autorisation. Si son père veut lui proposer quelqu'un, il lui propose quelqu'un, il attend qu'elle dise oui, j'accepte. D'accord? Si elle dit non, ou si elle ne donne pas de réponse, il ne conclut pas le mariage. Il ne peut pas le conclure. Parce que c'est une femme qui est. Maintenant, elle peut répondre, elle sait c'est quoi le mariage, elle sait c'est quoi son. Alors qu'une femme, une jeune fille qui n'a jamais été mariée, le fait qu'elle ne dise rien contre son père, bien sûr, il doit lui poser la question, est-ce que tu accepterais de te marier avec un tel ou pas? Ici, elle dit rien, il peut considérer son silence comme une acceptation. Contrairement à la femme déjà mariée, le silence. Dans le cas d'une femme qui est déjà mariée, n'est pas une acceptation. Elle thayyib, d'accord? Elle bikr, son silence, c'est une acceptation.
C'est la timidité.
C'est la timidité. Exactement. Ouais. Et si elle fait un sourire, c'est encore.
Encore mieux.
600%, là. C'est généralement, bon. C'est. Donc, il dit rida. Rida, c'est l'acceptation. On ne peut pas. Hudur shahidaini zahiray al-adal. La troisième condition du mariage, c'est les deux témoins. Les deux témoins. Deux témoins qui sont honnêtes, qui sont des gens intègres. Deux témoins intègres qui assistent. il faut deux témoins qui assistent. C'est-à-dire que si vous avez le père de la fille, le wali, vous avez le mari, le futur mari, et vous avez deux témoins, le mariage peut être conclu. Hein, vous savez qu'il n'y a pas besoin d'imam. L'imam, ce n'est pas nécessaire. Les gens, ils disent, il faut... Mais c'est bien d'avoir Ahlul Adl. C'est-à-dire, c'est une bonne chose d'avoir les gens pieux de ta ville ou les gens pieux que tu connais. Et si l'imam veut venir, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le mariage. Il ne faut pas dire, l'imam, ça, c'est rien. Non, c'est une bonne chose si on trouve un imam parce que on a besoin, pour le mariage, de quelqu'un qui connaît les règles aussi, qui essaye de... L'imam pour nous musulmans, c'est un témoin comme les autres, vous savez. C'est pas parce qu'il y en a qui croient. Il faut deux témoins, il faut l'imam et il faut le mari et le père de l'homme. Non, il faut l'imam peut être le deuxième. Il est considéré comme le deuxième témoin, d'accord. Mais on dit deux. Mais si vous avez dans une assemblée 10 personnes qui assistent ou alhamdoulilah tous les voisins qui sont pieux, les gens de la mosquée. Ben, si on a 20 personnes qui sont pieux, ben, le mariage, il a plus de bénédictions. Il a plus de bénédictions. D'accord ? Donc, هذا مشكل كبير. مشكل كبير لأن من شروط الزواج خلو la première condition pour qu'un mariage soit valide, c'est quoi? C'est que le mariage soit autorisé. Il faut que le mariage soit autorisé, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut se marier avec sa mère?
Non.
On peut pas se marier avec sa sœur?
Non.
Est-ce qu'on peut se marier avec sa sœur de lait?
Non.
Est-ce qu'on peut se marier avec une femme mariée?
Non.
Pardon?
Non.
Elle est
mariée. Elle a un contrat avec un homme.
Elle a dit si, il va dire après.
Divorcé, oui. Divorcé, et la période respectée. D'accord? Maintenant, imaginons que cette femme est mariée civilement et religieusement. Hein, c'est ce qu'on exige. Généralement, on demande aux gens de se marier civilement et religieusement. Et que le mariage, l'homme a fait le divorce religieux et il a lancé le divorce civil, n'est-ce pas? Et que pendant cette période-là, qui peut durer selon l'argent, selon les biens, elle peut durer cette période un an, deux ans, parfois même plus. Est-ce que le mariage a été dissous, à votre avis?
Oui.
Non. Est-ce que cette femme-là, elle a un contrat? Contrat civil. Elle a accepté de faire un contrat civil avec cet homme-là. Elle a dit oui devant le maire, devant le... Donc elle a signé. Donc elle est liée à cet homme-là par deux contrats. Pour nous, en tant que musulmans, c'est un seul contrat. Il faut que ce contrat soit dissous complètement. Et comment il sera dissous complètement? Ben, une rupture à la fois religieuse et à la fois civile. Et c'est pour ça que nous on dit, les imams, on dit aux gens, ne divorce pas sur religieusement si le divorce civil n'est pas fait. Pourquoi? Parce que quand tu dis divorce religieusement alors que le divorce civil n'est pas fait, ben la femme, elle est dans une situation à dire divorce civil. C'est le flou le plus... Et pendant la période où le divorce civil n'a pas été prononcé, ben, le mariage, si elle se marie avec un autre homme, elle aura deux contrats. Elle aura un mariage avec un homme, qui est l'ex-mari, celui qui a divorcé, et un autre mariage avec un autre homme. Parce qu'elle a un contrat, l'autre contrat, il court encore. Et c'est très très difficile de...
La femme n'a pas le droit de divorcer.
La femme peut demander un relève.
Ah, elle peut.
Elle peut demander.
Elle peut demander.
Elle peut demander.
D'accord.
Elle peut aller devant un juge musulman.
Mais si elle part comme ça toute seule, sans demander à personne, elle abandonne son mari.
Ça, c'est pas quelque chose qui est autorisé. C'est pas autorisé.
Mais je veux dire, ils sont divorcés?
Non, ils sont pas divorcés.
Même si c'est fait des années?
Non.
Ah ouais?
Du moment où il y a un contrat qui les lie.
Il y a beaucoup de femmes, ils fuient leur mari, c'est ça. Hein.
Oui, ça c'est un vrai problème. Et après, elles demandent qu'un autre imam le marie avec un autre homme, et ainsi de suite.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez certaines personnes qui sont mariées avec des femmes qui sont mariées avec deux hommes. Aujourd'hui, ça existe malheureusement.
Ah ouais.
Elle a un contrat civil avec un homme, et un contrat religieux avec un autre homme. Et ça, c'est très grave, très grave. Je ne sais pas comment on peut avoir... Ça, c'est...
C'est la bonne séance.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير.